Il est 20h, vous écoutez Radio Campus Paris, c'est un excellent choix. Quand on crie dans une grotte, un écho, c'est le son qui vient d'en bas, le même que celui qu'on a produit mais légèrement altéré.
La musique, c'est une photographie d'un instant, comme une bouteille lancée à la mer, attendant qu'on lise le message qu'elle contient.
La musique, c'est un repère, une balise, elle se synchronise avec nos expériences personnelles.
Et nos ressentis dans l'instant, qui font écho aux ressentis de quelqu'un d'autre, le musicien.
La musique, c'est l'onde sur l'eau qui se propage.
Un courant qui défie l'espace et le temps.
Et les échos, ce sont ces sons, enracinés dans le passé, ces héritages qui nous reviennent.
Choisir de les entendre, c'est se préparer à mieux écouter.
À mieux comprendre la musique d'aujourd'hui.
Notre émission parlait de cinéma, elle s'appellerait sûrement Réflexion.
Car en musique comme au cinéma, on peut analyser les parties pris.
Les valeurs de plan sont autant de choix d'instruments, de matières sonores.
Le scénario, c'est l'écriture des paroles, de l'histoire qu'on veut chanter, raconter.
Vous êtes sur Radio Campus Paris.
Et vous écoutez depuis 40 secondes sans le savoir l'émission Écho.
Votre magazine d'été qui, en 3 fois, en 3 mois, va analyser,
décrypter,
donner des clés de lecture.
Pour ne pas se contenter d'entendre, mais d'écouter l'actualité musicale.
Lui, c'est Quentin.
En effet, lui, c'est Paul.
Absolument. Allez, prenez place, installez-vous et soyez les bienvenus dans votre maison des sons.
Aujourd'hui, on va s'intéresser au dernier album du groupe français, Phoenix, Tiamo, paru le 9 juin 2017 chez Glassnote Records.
Pour en parler, nous accueillons ce soir Stéphane Bria, Pierrick Desvin, Dodi El Cherbini. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Alors, Stéphane et Pierrick, vous êtes tous les deux ingénieurs du son. Pierrick, vous avez notamment participé activement à la prise de son et au mixage de Tiamo. De votre côté, Dodi, vous n'êtes pas moins que l'un des arrangeurs de l'album. On aura l'occasion de revenir sur ce rôle peu connu par le grand public. Votre expertise à tous les trois sur le sujet Phoenix va nous aider à mieux comprendre leur parcours et nous aurons l'occasion de reparler de vos carrières respectives car vous avez quand même participé chacun à pas mal de grandes réalisations musicales.
Pour notre analyse de Tiamo, dans un premier temps, on resituera ce que c'est que Phoenix, leur histoire, leur œuvre, leur trajectoire internationale fulgurante et on se replongera dans plusieurs de leurs albums.
Pour finalement aboutir à Tiamo, un album qui se démarque du reste de leur discographie par des partis pris esthétiques assez tranchés. En hommage à la musique italienne, comme nous le verrons.
Tout à fait, nous nous intéresserons aussi à ce que raconte Phoenix, des histoires d'amour gorgées de douce mélancolie, chaude comme une histoire d'été, une histoire de plage, dirait Brigitte Bardot.
Enfin, nous essaierons de comprendre comment Phoenix a cheminé depuis ses débuts jusqu'à Tiamo et quelle est leur place dans la musique pop, dans la musique électronique et du coup dans ce beau courant qu'on appelle la French Touch.
Écho, c'est parti pour une heure avec à la réalisation ce soir le seul, le professionnel Hugo Violas. Et pour commencer, j'aimerais qu'on se tourne vers nos trois invités. Merci encore d'être avec nous. Alors Pierrick et Stéphane, vous êtes tous les deux ingénieurs du son, autant en prise de son qu'en mixage. Pour nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas très bien le monde de l'industrie musicale, c'est quoi être ingénieur du son aujourd'hui, Stéphane ?
C'est principalement s'occuper de l'enregistrement en studio et de la partie d'après qui est le mixage. Donc une fois que tout le matériel de production est enregistré, accumulé, pas forcément choisi, on arrive à l'étape du mixage où là on met en forme dans la manière la plus définitive la chanson que finalement les auditeurs vont pouvoir apprécier. En faisant des choix esthétiques, sonores et artistiques ou bien instrumentales aussi, parce que parfois il y a des parties musicales qui sont mises en forme lors de l'enregistrement qui ne sont pas forcément adoptées dans la partie finale. C'est tout l'art avec les artistes de mettre en forme la version définitive que vont pouvoir apprécier les auditeurs.
Je vois Pierrick qui acquiesce, vous êtes entièrement d'accord avec...
Tout à fait d'accord.
Ouais, d'accord, très bien. Alors je me tourne vers vous, Dodi, vous êtes crédité en tant qu'arrangeur de l'album, donc vous m'avez dit juste avant que vous avez participé à 2 titres et demi pour les arrangements.
Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire, arranger un album ?
Bah, c'est pas l'album qu'on arrange, en général c'est une chanson. Et arranger une chanson, c'est faire un certain travail que je peux décrire si ça t'intéresse.
Ça, je suis sûr que ça intéresse aux auditeurs en effet.
Alors ça consiste en gros à habiller une chanson, l'arrangement c'est la manière dont on habille une chanson. Je peux prendre un exemple simple, c'est par exemple si tu fais une chanson, t'entends des reprises par exemple une reprise reggae d'un titre ou une reprise métal, tu vois, ce sera l'arrangement ça. L'arrangement c'est exactement ça, c'est la manière dont tu habilles une chanson comme un vêtement sur quelqu'un, c'est-à-dire t'as le vêtement de soirée, t'as le vêtement de jour, etc. Et c'est ça que tu fais.
Et donc c'est le choix un peu des matières sonores, c'est le choix aussi des instruments.
Alors ensuite, dans un premier lieu, c'est l'idée générale de la chanson. Dans un deuxième temps, il y a une part d'harmonisation, c'est-à-dire qu'une chanson, en général, ça se réduit à une grille d'accords assez rudimentaire et à une mélodie. Et donc, il y a mille manières d'harmoniser la mélodie, de la mettre en valeur. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, il y a aussi une part de production qui consiste à choisir, enfin, travailler. La production, on peut considérer que c'est un travail de matière, et en l'occurrence, c'est de la matière sonore, mais ça consiste à faire aussi des choix de production. Il faut comprendre un truc, c'est qu'aujourd'hui, l'arrangement et la production sont des disciplines qui s'interpénètrent et qui recouvrent parfois des champs qui sont les mêmes, parce que tout le monde travaille de la même manière maintenant. L'arrangement, on peut considérer qu'historiquement, c'était uniquement de la rédaction de partitions et des choix d'instruments. Mais maintenant, à partir du moment où la musique se fait aussi avec la production, avec tous les moyens qui sont mis à disposition de tout le monde, avec l'ordinateur, il y a des points communs entre l'arrangement et la production, et parfois l'un et l'autre, c'est un peu la même chose.
Donc du coup, il n'y a plus trop de différence entre aussi le métier de compositeur et le métier d'arrangeur, c'est ça que tu veux dire ?
Si, ça n'a rien à voir. La composition, non, mais alors la composition, ça n'a rien à voir. La composition, c'est de la musique au sens strict. On peut composer avec un piano, on peut composer avec une guitare, on peut composer même sans instrument. Par exemple, pour un mec comme Étienne Dao, je pense qu'il joue de rien, mais je pense qu'il compose ses titres. À partir du moment où une chanson, c'est pratiquement qu'une mélodie d'ailleurs. On pourrait imaginer qu'une chanson, c'est uniquement une mélodie avec avec un accompagnement rudimentaire, mais la composition, c'est vraiment ça, c'est faire sortir quelque chose du néant. Donc ça n'a rien à voir. L'arrangement, il y a déjà une base, il y a déjà quelque chose qui a été composé, et il s'agit de lui donner une forme. Et je te dis, c'est la forme générale que tu donnes à une composition donnée, l'arrangement, c'est ça.
D'accord.
Sauf qu'aujourd'hui, les étapes sont interconnectées.
De par la manière les méthodes de travail d'aujourd'hui, on peut composer, produire et arranger tout en même temps. Alors qu'avant, c'était un peu plus décomposé les étapes. Alors qu'aujourd'hui, on peut directement composer un titre et le produire en même temps. C'est pour ça que c'est plus flou, les notions sont plus floues aujourd'hui.
Dodi, je reviens vers vous. Vous êtes aussi musicien. Vous pouvez nous raconter comment vous avez rencontré Phoenix ?
En fait, j'ai fait mon premier concert, c'était à la Gaîté Lyrique en première partie de Moodoïd. Il se trouve qu'ils ont enregistré leur album à la Gaîté Lyrique et qu'ils passaient leur temps à circuler dans le bâtiment.
On y reviendra d'ailleurs.
Et quand j'ai fait les balances, je me souviens quand j'ai fait les balances, j'avais vu Chris qui était dans un coin, qui disait qu'il y en avait peut-être plusieurs, mais je l'avais aperçu, je l'avais reconnu. Et ils ont vu le concert et ensuite ils m'ont contacté via Bandcamp, peut-être un mois ou deux après. Quoi.
D'accord, d'accord.
Pierrick, Stéphane, quelques noms d'artistes avec qui vous avez collaboré peut-être avant Phoenix ?
Bon, il y en a eu pas mal. Les plus connus, on pourrait citer R, avec lesquels j'ai collaboré dès le tout début de leur carrière pour mettre en forme les premiers maxi qui ont été disponibles, à savoir ce qui a été regroupé sur l'album qui s'appelle Premier Symptôme. Mm-hmm. Par la suite. Ensuite, on a travaillé sur l'album Moon Safari ensemble, puis sur Virgin Suicide. Puis on s'est retrouvé un petit peu plus tard pour faire un album qui s'appelait Love 2. Donc c'est des gens que j'ai un petit peu suivis tout au long de leur évolution, de leur carrière, et que je continue à côtoyer, avec qui je travaille pas forcément, mais on a toujours un échange. Après, il y a eu plein d'artistes différents, donc Phoenix, Sébastien Tellier, enfin des gens qui sont un petit peu issus de cette scène-là, mais aussi des gens comme Vitalik, ou plus récemment, ma rencontre avec Dodi. Mmh. Et la collaboration qu'on a établie sur les trois premiers EP qui ont été mis à disposition sur la dernière année et demie passée. Donc voilà, mais je m'oriente principalement, j'aime les premières fois. J'aime ce moment un petit peu de découverte qu'on peut avoir avec les artistes, et j'aime l'idée de travailler avec des gens un petit peu vierges, et la naïveté et en même temps l'attente des premiers enregistrements, c'est quelque chose que je trouve assez excitant. Je suis plutôt porté sur des artistes jeunes, ce qui m'a poussé à travailler avec des gens comme La Femme ou Les Pirouettes aussi récemment. J'aime bien ça, être un petit peu... et puis je suis de plus en plus éloigné de ces... vu mon âge avançant, et je suis de plus en plus éloigné de ces générations, mais je trouve ça très rafraîchissant et très excitant de collaborer avec des jeunes gens que je trouve vraiment pertinents et inspirés. Et d'accord. Qui font les choses d'une manière vraiment positive et dans un esprit de communion que je trouve super.
Alors aujourd'hui ensemble, on va donc essayer de décortiquer le dernier album de Phoenix, mais comme on l'a dit plus tôt, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut se tourner vers hier. Petit retour en arrière donc sur l'histoire de ce groupe atypique qui est entré dans l'histoire de la musique internationale.
Et tout commence en 2000. They say an end can be a start. Feels like a barbarie, it's still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me. A thing I don't try to deny.
On repère déjà sitôt des détails qui feront l'identité de Phoenix, à savoir une façon de prononcer l'anglais un peu particulière. Tout ça sonne très pur, très naturel, comme sur le titre qu'on entend actuellement, If I Ever Feel Better.
Phoenix, c'est un quatuor de Versailles, ils sont originaires des Yvelines. On retrouve dans le groupe Thomas Mars au chant, Dec Darcy à la basse et au clavier, et du côté des guitaristes Christian Mazzalai et enfin Laurent Brankovitz, qui avant d'être le guitariste du groupe français, jouait dans un autre groupe qui n'a pas fait long feu, un groupe avec des certains Thomas Bangalter et Guy Manuel Deomem Christo.
Qui un peu plus tard formeront les Daft Punk, rien que ça. A noter quand même que le groupe signe en 2003 à la BO du film Lost in Translation, réalisé par Sofia Coppola avec Bill Murray. Sofia Coppola qui deviendra plus tard la compagne, puis la femme de Thomas Mars, le chanteur de Phoenix.
En 2004, Phoenix fait paraître Alphabetical, puis en 2006, ils prennent un tournant beaucoup plus rock avec leur album It's Never Been Like That. On peut écouter un petit aperçu avec Rally.
Des riffs un peu plus énervés, une batterie toujours plus brute, mais c'est aussi le début des traitements sur la voix. Une voix qui devient de plus en plus épurée, mais dans l'ambiance générale, on s'attaque à un ton plus sombre, moins léger que sur les albums précédents.
Et finalement, on aboutit à 2009 avec leur album Wolfgang Amadeus Phoenix, qui est un succès mondial, succès notamment dû à une distillation parcimonieuse de gouttes de musique électronique dans la musique rock. Une recette qui a aussi marché pour un autre petit groupe qui monte, les Vampire Weekend. Phoenix en 2009, ça donne ça, on écoute un peu de 1901.
Une particularité notable quand même de ce groupe, c'est qu'ils ont d'abord connu un succès ailleurs que dans le pays d'origine. Phoenix connaît effectivement un succès plus important en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Japon et même dans les pays scandinaves. Leur succès d'explosion n'arrive qu'en France que plus tard, c'est Wolfgang Amadeus Phoenix qui leur permet de faire sale comble et de ravir la presse française.
L'album leur vaudra aussi le Grammy Award du meilleur album indépendant et ils sont le seul groupe français à jouer au Madison Square Garden devant plus de 20 000 personnes. Stéphane, Pierrick, ça vous fait quoi de réentendre ces titres-là? Vous bossiez déjà avec Phoenix à cette époque, Pierrick?
Moi, j'ai rencontré Phoenix dans les studios Plus 30 il y a 15 ans. Et donc, ils sortaient de la tournée de Alphabetical et ils venaient avec un live pour mixer un live qui s'appelait 30 Days Ago. Donc, qui est un disque entre Alphabetical et It's Never Been Like That. Et après, je les ai retrouvés sur l'album It's Never Been Like That, où j'étais assistant de Julien Delfaux pendant plusieurs mois. Et là, voilà, c'est là où on a commencé à se connaître et à passer du temps ensemble. Et à la base, j'étais déjà fan du groupe. Donc, j'ai toujours suivi le groupe avant, après avoir travaillé avec eux. Et j'adore toujours écouter 1901, enfin, toutes les époques du groupe me fascinent et me plaisent.
Stéphane ?
Moi, je les ai rencontrés un petit peu avant parce qu'ils étaient au tout début de leur carrière, pendant un petit moment, le backing band du groupe R pour certaines promotions, notamment une télé qu'ils avaient fait à Canal+. Donc je les ai rencontrés à cette occasion-là.
Backing band peut-être pour les auditeurs
qui... En fait, le groupe accompagnateur, en fait, puisque à la base, R, c'est un duo. Donc ils avaient comme volonté de produire quelque chose pour la scène qui soit un petit peu plus convaincant et énergique que juste leur apparition à deux. Mm-hmm. Donc ça a toujours été quelque chose qu'ils ont mis en place, continuer avec d'autres gens que les Phoenix par la suite, mais ils sont toujours accompagnés par des musiciens additionnels qui ne font pas partie intégrante du groupe.
Et donc là, c'était Phoenix, du coup.
Donc là, c'était Phoenix, et moi, je travaillais notamment beaucoup à l'époque pour un label qui s'appelait Source, sur lequel était le groupe R, et donc par ce biais, en fait, j'en suis venu à travailler sur United, le premier album de Phoenix que j'ai co-réalisé avec eux et enregistré.
Donc Dodi, j'imagine que vous connaissez Phoenix avant de travailler avec eux, vous les écoutiez déjà en 2010 ?
Ouais, enfin je les connaissais, j'avais écouté quelques chansons, j'avais des albums, je connaissais pas tout non plus, mais je connaissais le premier et le deuxième disque, et je connaissais évidemment Wolfgang comme tout le monde. Et c'est un groupe que j'appréciais. Je tiens quand même à le préciser.
On dit souvent que Phoenix, ils ont une signature sonore. Pour vous, Stéphane, Pierrick ou même Dodi, c'est quoi le son Phoenix? Qu'est-ce qui fait que Phoenix, ben, quand on écoute Phoenix, on reconnaît directement Phoenix?
Bon, je sais pas. Il y a beaucoup de choses qui caractérisent Phoenix. Je pense que le premier truc qu'on se dit quand on écoute Phoenix, c'est le premier truc qui reste, c'est la cocotte, je crois. C'est quand même le premier truc qu'on se dit qui, c'est-à-dire quelque chose qui vient.
C'est très stylistique déjà, mais la voix de Thomas, c'est déjà
T'as deux choses, t'as la voix et puis il y a l'auditeur moyen. Je pense qu'un auditeur moyen, il le remarque.
Oui, mais il entend déjà la voix, je pense. Avant de se dire, il y a une guitare.
L'auditeur moyen n'entend que la voix, mais. Il y a beaucoup de choses dans Phoenix. Il y a beaucoup de trucs qui viennent du rock indé, je crois. Mm-hmm. Il y a aussi une partie qui vient de la soul. Et il y a aussi un élément qu'on pourrait assimiler à la French Touch, qui est l'élément disco ou des références disco. Je pense que c'est un peu ça, c'est un mélange de ces trois trucs-là qui fait le son de l'ensemble. Enfin, a priori, j'en sais rien.
Vous êtes d'accord, Stéphane, Pierrick?
Oui, il y a une appréciation de l'anglais aussi qui lui est assez propre, qui est une espèce de chewing-gum anglophone qui est assez particulière.
Ça marque aussi que c'est un groupe français, du coup.
Ouais, tout à fait, mais qui n'est pas forcément... sur lequel c'est pas appuyé en tant que français. On n'imagine pas que ce soit un anglais un petit peu tarabiscoté, mais je pense pour un anglo-saxon, c'est un petit peu particulier d'écouter les paroles de Phoenix.
Ouais, c'est vrai.
Par contre, je trouve que chaque album a une particularité sonore différente. Et donc il y a un son Phoenix, mais qui change et qui évolue à chaque fois.
C'est vrai, ouais,
donc on retrouve des éléments, parce que c'est le groupe Phoenix, mais chaque album a une empreinte différente.
Et c'est là aussi leur force, c'est de pouvoir régénérer un petit peu l'habillage qu'ils donnent à leur musique, tout en gardant l'essentiel et ce qui fait leur caractéristique.
Et bien justement, on va y venir à cette évolution du groupe Phoenix. Du coup, je vous propose qu'on prenne un peu le temps de profiter du Phoenix de 2010. On écoute Listomania en entier, cette fois-ci sur Radio Campus Paris, toujours issu de leur album de 2009, Wolfgang Amadeus Phoenix.
Showtime.
Radio Campus Paris, il est 20h20, vous écoutez toujours Echo. On tente d'analyser ce soir la carrière de Phoenix, qui après Wolfgang Amadeus Phoenix publie finalement en 2013 Bankrupt, qui marque alors un tournant ou pas, on va en parler juste après pour le groupe, avec de grosses prises de risques, une dynamique qui change un peu par rapport aux albums précédents, retour aux sonorités 80s et des sons synthétiques. Pour ceux qui se posaient encore la question, il s'impose réellement sur cet album, on trouve comme des artistes de la French Touch, mais on aura l'occasion aussi d'en reparler dans quelques instants.
Et oui, pour se rendre compte de ce changement, on écoute un peu du titre SOS in Bel Air. Voilà pour SOS in Bel Air qui résume bien l'ambiance de l'album Bankrupt. À ce moment-là, Pierrick, Stéphane, Dodi, on sent chez Phoenix une vraie rupture par rapport à leurs albums précédents. Qu'est-ce qui a changé chez eux ?
Moi, j'ai l'impression qu'il y a... C'est pas vraiment un changement, mais c'est plus une légère métamorphose avec un concept à chaque fois développé pour l'esthétique de chaque disque, notamment dans le ressenti. Pour moi, j'ai l'impression que Wolfgang est plus un disque attiré par l'idée de la vieille Europe. Bankrupt est un disque plutôt avec des influences asiatiques et le dernier basé un petit peu sur l'amour de la musique italienne. Donc il y a une petite promenade internationale en fait pour rafraîchir le propos classique qui était au départ plutôt Americana, indie soul vers quelque chose d'un petit peu plus original par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre sur un groupe pop rock.
D'accord, alors donc, du coup à la suite de l'apparition de leur dernier album, donc Bankrupt, Phoenix part en tournée internationale, tournée qui se termine en 2014 après leur concert au Palais des Sports de Paris, et ils décident finalement immédiatement de s'enfermer à la Gaîté Lyrique où ils vont enregistrer plus de 4,7 jours de musique qui après cette sélection formeront le dit album Ti Amo, Paul.
Oui, Ti Amo, c'est une histoire de plage italienne dans une Italie crème glacée aux couleurs pastel kitsch, mais c'est surtout, et les membres de Phoenix vous le diront mieux que nous, l'histoire d'une Italie qui en fait n'existe pas. C'est l'Italie de notre imaginaire collectif de touristes français finalement.
Alors Pierrick, s'enfermer dans un lieu pendant si longtemps, ça ressemble un peu à une vie de laborantin qui cherche absolument à expérimenter des trucs. Vous étiez présent tout au long de la résidence à la Gaîté Lyrique ?
J'étais présent, alors pas pour la première année. Pour la deuxième, alors je sais pas si ça a duré combien de temps, 2 ans ou 3 ans. Moi, en tout cas, j'étais là pendant toute la dernière année.
D'accord.
Donc, ils avaient déjà avancé sur une grosse structure de l'album. Tous les titres étaient quasiment avancés et fallait le faire pour de vrai quoi.
Dodi, à quel moment vous êes intervenu dans ce processus de création du coup vous ?
Moi, j'ai dû disons en 2015. Donc je pense que quand j'ai commencé, Pierrick n'était pas encore là, mais quand j'ai fini, il était déjà là, donc ça devait être quelque part au milieu. Je devais être au milieu, je pense.
Et Stéphane, ils ont l'habitude, Phoenix, de travailler comme ça, de s'enfermer, d'expérimenter tout le temps, de chercher
Oui, ça a toujours été en fait leur méthode de travail. Ils ont une méthode un petit peu laborieuse en fait, de recherche, puis ensuite d'assemblage de ce qui a été trouvé. C'est un peu un Lego pop en fait. Ils ne sont pas dans une méthode de songwriting traditionnelle. On prend la guitare, on écrit un texte et roule ma poule. C'est plus une espèce de mélange d'idées qui font qu'à la fin, assemblé, ça donne les morceaux en question. Mais c'est assez laborieux comme méthode, ce qui du coup découle sur des laps de temps passés assez longs.
D'ailleurs, Paul.
Ouais, c'est vrai que dans les interviews Phoenix, on dit avoir enregistré pour cet album plus de 4 jours et demi de musique, comme l'a dit Quentin. Comment on fait quand on a autant de matière pour sortir un 10 titres finalement ?
On passe beaucoup de temps à tout réécouter et à choisir les moments les plus adaptés aux morceaux, ceux qui offrent une émotion nouvelle. Donc c'est beaucoup de débats aussi, beaucoup de discussions. Ah non, telle partie est mieux, il faut la rejouer, on la rejoue. Ah non, finalement, la première partie était mieux. Enfin bref, c'est beaucoup de questionnements. Et puis, quand on prend le chemin de ces questionnements-là, il faut aussi prendre le temps d'avoir du recul. Et c'est ça aussi... qui est compliqué, c'est d'y voir clair à un moment donné.
Et Dodi, le travail d'arrangeur, il arrive avant ou après cette sélection ? Il arrive à quel moment ?
Alors franchement, aucune idée. Moi, ce qu'on m'a donné, c'est des titres qui étaient plus ou moins finis parfois, qui étaient très très proches de ce à quoi ils ressemblent à la fin. Mais j'étais pas du tout dans le processus de travail. Moi, j'étais un intervenant extérieur. Ils me donnaient des titres. Et j'en faisais ce que je voulais. Ouais. C'était un peu le même principe que quand on donne un morceau à un remixeur. Quoi.
D'accord. J'avais pas de... Ils voulaient un œil neuf, quoi.
Ouais, voilà, fais ce que tu veux, c'était un peu ça, la seule...
Et après, ils ont choisi un peu...
De garder ou de ne pas garder, suivant, le...
ouais, ou de...
suivant les titres. Ouais.
On a l'habitude en ce moment d'entendre des retours dans le temps esthétiques en musique, et particulièrement en France. Des sons beaucoup plus cheap, plus disco, plus vintage. On vous propose un petit florilège 100% kitsch de ces derniers mois. Alors on a écouté ici pêle-mêle pour les sonorités rétro, Juliette Armanet, la reine du disco contemporain français, et Pépite, le groupe Cheap et Chic. Et pour la nouvelle génération qui décide de s'approprier l'héritage de ses aînés, eh bien nous avons écouté Fine, le jeune prodige de la scène électronique émergente parisienne qui rend hommage à Balavoine, mais aussi Benjamin Biolay qui reprend Souchon, pardon, sur l'album Souchon dans l'air, aux côtés de Philippe Catherine, Mathieu Bogartz, Isia et bien d'autres, notamment Vanessa Paradis, qui livre une superbe reprise du titre Le Baiser. Foncez, écoutez ça, on adore ça à Radio Campus Paris. Mais ce n'est pas que dans la musique qu'on aime le rétro, et c'est pourquoi on a aussi écouté, on entend encore d'ailleurs La La Land, la bande-son de La La Land, car c'est dans la culture populaire en général qu'on apprécie aussi remonter dans le temps. Par exemple, sur Netflix, les séries Stranger Things, 13 Reasons Why, mais aussi The Get Down et même Fargo sont toutes des retours en arrière en termes esthétiques. Mais Phoenix, eux, n'ont pas décidé de rendre hommage à ces courants-là qu'on a pris l'habitude de réentendre ou de revoir dans les charts et en tête des box-office. Ils ont choisi la musique populaire italienne. Sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. E un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Quanta gente ho incontrato io, quante storie, quante compagnie, ora voglio di più. Una storia importante, quello che sei tu, forse sei tu. Marco se n'è andato e non ritorna più. Voilà pour la musique de variété italienne, Eros Ramazzotti, The Italians et Laura Pausini. Mais encore une fois, Phoenix se démarque et choisit un courant de la musique italienne bien particulier, car en 1980 arrive un nouveau style en Italie, l'Italo Disco, un style dérivé de la musique disco, comme son nom l'indique, une musique importée des USA via par exemple Donna Summer. On retrouve aussi dans l'Italo Disco un peu de la New Wave anglaise comme Alpha Land, Kraftwerk, et l'Italo Disco, eh bien ça ressemble à ça. Des synthétiseurs en pagaille, un hook qui se répète et un modèle de construction très simple, couplet, bridge, refrain. Au niveau de l'ambiance générale, on retrouve la même mélancolie qu'un Eros Ramazzotti ou d'une Laura Pausini, avec la matière disco en plus et son côté dansant. Vous connaissez forcément au moins un titre, on écoute tout de suite Ryan Paris avec son tube La Dolce Vita. Like in a Dolce Vita.
dancing like in a Dolce Vita, with lights and music on. Our love is made in the Dolce Vita, nobody else than you.
À ceux qui en doutaient, vous écoutez bien Radio Campus Paris. Hein. On parle toujours du groupe Phoenix dans l'émission Echo.
Et une question qui nous vient quand même assez vite, c'est pourquoi avoir choisi ce style sur leur dernier album ? Pourquoi l'Italie ? Pourquoi l'Italo Disco, ces choses-là ?
Pierrick ?
Pierrick, Dodi, vous qui avez travaillé sur l'album ?
Dodi, pourquoi pas ?
Ouais, pourquoi pas, j'en ai strictement
Je ne vais pas répondre du tout à la question, mais les choix musicaux n'étaient pas vraiment judicieux, je pense. Ah. Parce qu'en fait, les références de Phoenix par rapport à la musique italienne, c'est plutôt Lucio Battisti, Frank Battiato, Ennio Morricone. Et là, on n'a pas trop entendu ce genre de musique. Et là, c'est un peu caricatural de la musique italienne. Et donc, ça représente un peu l'idée de ce que vous faites de la musique italienne aussi.
Mmh, tout à fait.
Et donc, c'est cette idée-là qui est intéressante. C'est l'idée de ce qu'on se fait de l'Italie, enfin de la pop italienne, et de ce que ça représente d'érotisme et d'une certaine pop, en fait. Et je pense que c'est ça qui les intéresse. Mais si on creuse un peu, en fait, dans leurs vraies influences, ça va un peu plus loin que Umberto Tozzi ou des choses comme ça, un peu plus sucrées, on va dire. Et c'est une musique passionnante. Et voilà, il faut creuser un petit peu plus que Zucchero et
que l'image et autres, qu'on en a au premier abord.
Maestro.
Bah, on en parlait tout à l'heure, la culture populaire semble s'organiser un peu comme une boucle. On aime recycler, enfin, ou en tout cas se réapproprier ce qui se faisait avant. Comment vous expliquez, vous qui travaillez dans l'industrie musicale, cette envie de se tourner vers le passé qu'a notre génération ?
J'ai l'impression que depuis la fin des. Le milieu des. Non, on va dire depuis le milieu des années 90, il n'y a pas réellement eu de nouveaux courants musicaux. On peut attribuer le dernier grand courant musical à la techno. Qui est apparu au milieu des années 80 pour vraiment éclore chez le grand public dans les années 90. Et depuis, ce n'est que mélange et mixage de différents styles musicaux pour en créer de nouveaux. Il n'y a pas réellement eu une nouvelle manière d'envisager esthétiquement et de par le songwriting de nouvelles choses. Les nouvelles choses, elles sont un petit peu des adaptations de différentes vieilles choses qui sont mises ensemble et qui en créent une nouvelle. D'ailleurs, moi j'attends impatiemment la réelle nouveauté, le prochain Big Sing qui va un petit peu mettre d'accord comme on a pu entendre l'arrivée du rap ou l'arrivée de la techno ou d'une certaine pop électronique, un vrai renouveau, quoi.
Enfin, qui sont des mouvements qui émergent mais qui viennent aussi de quelque part.
Oui, c'est ce que
parce que le rap, il vient aussi
de
James Brown,
bien sûr.
La techno, il y avait de la musique électronique avant la techno, donc ça reste aussi une évolution,
une continuité. Oui, bien sûr.
Par contre, d'aller chercher la musique italienne, tout ça, ça fait plus appel après à une certaine nostalgie. Quand on utilise des sons vintage, des vieux synthés, moi, ça me rappelle mon enfance quand j'étais ado à écouter des disques. Et il y a un côté un peu Madeleine de Proust, quoi.
Commençons, Vomis l'image, je vous propose qu'on écoute vite, vite, vite. Telefono, donc de Phoenix, issu du dernier album Tiamo.
Thank you.
Sur Radio Campus Paris, nous sommes toujours en compagnie de Pierrick Desvins, Stéphane Bria et Dodi El Cherbini qui ont tous trois travaillé sur l'album Tiamo du groupe Phoenix.
Alors, Pierrick, pardon, tu me disais en off tout à l'heure qu'il a une histoire un peu particulière, ce titre sur l'album.
Oui, alors ce morceau, il est arrivé vraiment à la toute fin du processus de l'album. Quand je suis arrivé, il n'existait pas. Enfin, il l'avait un peu dans les disques durs, mais il n'était pas du tout abouti. Il n'était pas prévu d'atterrir sur le disque. Et il y a un autre titre qui a sauté au dernier moment et on l'a fait vraiment dans les tout derniers mois.
Ce qu'on a trouvé en tout cas sur ce morceau, c'est que c'est celui qui poussait au plus, le plus loin le jeu de la musique italienne, qui s'imprégnait vraiment de cette ambiance.
Je suis pas d'accord, mais...
Ah, c'est lequel selon toi, Dodi?
C'est Goodbye Soleil, je crois.
Moi, c'est Fior di Latte.
Fior di Latte, Goodbye Soleil.
On est tous pas d'accord.
Ouais. Non, mais si, les deux, t'as raison. Les deux.
C'est ça, c'est ça la beauté du monde, je pense.
c'est que des gens qui sont pas d'accord. Et ce genre d'hommage donc, à la musique italienne, ça se travaille aussi au mix. J'aimerais qu'on vienne un peu sur le mixage, donc du coup, Stéphane Bria, Pierrick. Oui. Comment le mixage peut aussi faire passer une pensée artistique? Qu'est-ce qui rentre en jeu dans le
mixage? Ce qui rentre en jeu, c'est notre appréciation du morceau et nos goûts, surtout parce que au-delà de la technique et des outils qu'on utilise tous, ça va être une manière d'exprimer notre point de vue sur le morceau et donc après, ça s'exprime par des effets, une manière de traiter les sons. Mais ce qui en ressort, c'est notre vision quoi, et celle du groupe, parce que travailler avec Phoenix en mixage, c'est un vrai travail de collaboration qui peut prendre beaucoup de temps d'ailleurs, mais voilà, c'était un affinage de plusieurs mois.
Et donc du coup, Stéphane, c'est quoi cette valeur ajoutée en plus? Qu'est-ce qui...
Déjà, le propre du mixage, c'est quand même d'arriver à rendre lisibles et claires les idées qui ont été déposées au préalable. Et d'affiner un petit peu cette production qui a été mise en œuvre pour la rendre la plus lisible et attractive possible.
Lisible, parfois ça peut être moins lisible.
Ça peut être moins lisible et plus attractif, ouais.
Ariel Pink, par exemple, je trouve pas ça lisible, sa musique, mais... Mm-hmm. Enfin, ça dépend ce qu'on entend par lisible.
Exactement.
Parce que ça reste lisible par rapport à la proposition musicale.
Disons que ça appuie
sa production.
Sa production et, voilà. Et une manière d'envisager les choses. C'est un mélange entre quelque chose d'assez technique et une appréciation complètement artistique. Et c'est là où ça se joue. C'est assez mouvant, hein. Il n'y a pas de règles fondamentales. Voilà.
Après, il y a des enjeux purement... parfois, on nous dit, oui, il faut absolument que ça passe à la radio. Donc, on va nous dire, il faut que ça sonne de telle manière, etc. Donc, parfois, on fait des versions radio, etc.
Oui, qui peuvent être un peu plus référencées par rapport à l'attente qu'on peut avoir du morceau.
Voilà, mais ça reste des versions alternatives.
Est-ce qu'il y a des références, du coup, sur mixage, des choses, des sortes de codes, en fait, à respecter?
Oui, ça peut. Et puis, surtout, quand on veut passer sur certaines radios, il faut que ça sonne un petit peu comme la musique d'avant, d'après, mais bon...
Donc, tout est lié. S'il y a quelque chose d'excitant au départ, il y a forte chance que ça reste excitant à la fin. Et à l'inverse, des fois quelque chose d'assez moyen peut se transformer en quelque chose d'un petit peu plus excitant.
Oui, il y a des bonnes surprises.
Voilà, il y a des choses qui sont très excitantes puis qui s'avèrent complètement ennuyeuses aussi, mais bon, il n'y a pas vraiment de règles, mais généralement c'est une continuité entre l'interprétation qu'en fait l'artiste, le musicien, cette interprétation est captée et ensuite comment elle a intégré à l'intérieur d'un ensemble qui fait que le morceau est attrayant à la fin.
Téléphono qu'on vient d'écouter arrive à la toute fin de l'album et une question que je me pose régulièrement en écoutant Tiamo, c'est comment vous avez choisi l'ordre des titres?
Alors là, typiquement, pour Phoenix, on a essayé beaucoup d'ordres différents. Mais il y a un premier ordre qui a été proposé par Philippe Sdar, qui était venu nous voir en studio par deux ou trois reprises. Et la dernière fois, il est venu nous voir, il nous a proposé un ordre. Je pense que c'est peut-être aussi ses talents de DJ et puis sa sensibilité musicale qui ont fait que...
Philippe Sdar, qui est un des membres de Cassius, hein, c'est ça.
Voilà, membre de Cassius et grand ingénieur du son et producteur. Il a travaillé sur beaucoup de disques de Phoenix.
Wolfgang,
notamment Wolfgang.
United.
Et donc, il avait proposé un ordre pour l'album Tiamo. Et après, on l'a affiné ensemble. On l'a beaucoup réécouté. Et voilà, ça a pris peut-être un mois, je crois. Mais
qu'est-ce qui rentre en jeu? On essaie de raconter une histoire? On essaie plutôt oui, de s'attarder sur les sonorités qui font...
Oui, je pense que c'est... Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Le morceau en lui-même, le tempo. Pour que tout l'album soit homogène, on va essayer de répartir les morceaux plus doux, plus... ceux qui ont un tempo plus énervé, on va les séparer. Enfin voilà, on essaie de faire un album homogène. Quoi.
Alors Dodi, vous m'avez dit que vous aviez travaillé sur Fior Dilaté. Est-ce qu'il y a des moments quand on travaille sur ce genre de morceau, on se dit non, là peut-être qu'on va peut-être un peu trop loin dans la référence, on va peut-être un peu trop loin dans le kitsch ou dans le... Il faudrait peut-être qu'on revienne un peu à ce qu'on faisait avant. Est-ce qu'on se dit à des moments qu'on est trop...
Peut-être qu'il y a des gens qui disent ça, moi je me dis jamais ce genre de choses. D'abord, le kitsch, c'est une notion qui me parle pas du tout, je sais pas ce que ça veut dire. Et les références non plus, donc... Le seul truc qui m'intéresse, en fait, quand je travaille sur un morceau, quoi que ce soit, c'est la mélodie et les harmonies. C'est le seul truc que je vois et c'est la seule chose qui me parle. Il y a des bonnes chansons, il y a des mauvaises chansons, il y a des bonnes grilles d'accords, il y en a des mauvaises, il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont pas bien, selon mon goût, bien sûr. C'est le seul truc que je me dis, je me suis pas dit... J'ai même pas trouvé que, d'ailleurs, que je trouve qu'il y a rien de kitsch sur l'album. Peut-être qu'il y a des trucs qui sont kitsch, mais je m'en rends pas compte.
Kitsch, c'est quoi? C'est un peu ringard
pas spécialement,
et
non,
doucement vieillot
c'est ouais, il y a un côté doucement vieillot, ouais, je pense.
Mais c'est un doucement vieillot qui est aussi joli, enfin, c'est quelque chose qu'on apprécie. Du coup, oui. Comme on parlait tout à l'heure, c'était la Madeleine de Proust, quoi.
Je me pose ce genre de questions. Moi, je pense que je vois uniquement l'aspect mélodique. C'est vraiment le truc qui m'intéresse le plus. C'est l'aspect mélodique et ce qu'on met autour et la manière dont... Le truc de Fior Dilaté, c'est que c'est une chanson qui est très mélodique, mais vraiment très mélodique. Moi, je trouve qu'elle est très, très bien écrite et qu'il y a une espèce de nonchalance. Et voilà, le but, c'était plutôt d'aller dans le sens du courant et de travailler ce truc-là. Elle a un côté un peu chaloupé en même temps. Elle est ni trop lente ni trop rapide. Elle est vraiment entre les deux. Donc voilà, je me pose ce genre de questions, je me suis pas tellement dit, tiens, ils ont fait un truc kitsch, ou comment est-ce que je vais faire pour que ça le soit à moi.
Radio Campus Paris, il est 20h45, je vous propose qu'on écoute tout de suite, justement, Fior Dilaté, un autre extrait donc, du dernier album de Phoenix, et on revient tout de suite après pour parler ensemble de l'histoire que nous raconte Phoenix sur l'album.
Oh.
Radio Campus Paris, c'est l'émission Echo. On écoutait Fior Dilaté, le quatrième titre de l'album, et ça se termine sur une sonnerie de classe. Du coup, Pierrick, tu nous disais.
Oui, c'est un peu le réveil quand on est en cours et qu'on émerge d'un rêve, érotique ou pas, et pap, il y a une sonnerie toujours qui nous réveille, et hop.
Et c'est la fin de la chanson.
Il faut aller à la récréation. voilà. C'est, tout le monde a connu ça, non?
Oui,
bien sûr.
Oui. Et donc maintenant, Paul, on va s'intéresser à l'histoire que nous raconte cet album.
Et oui, tout à fait. La Fior Dilaté, vous savez peut-être, c'est une glace italienne à la crème. Dans une interview fleuve au cultissime magazine américain Spin, les membres du groupe racontent avoir travaillé leurs inspirations pour cet album autour du mot gelato, c'est-à-dire glace en italien. Laurent Brancovitch déclare d'ailleurs que cet album se résumerait en fait à un groupe de Français essayant d'imaginer ce qu'est l'Italie et en échouant à peu près. C'est dans cette Italie imaginaire et vintage que Phoenix déroule ses histoires titre après titre. On y parle de ce que l'on fait par amour, de désirs non réciproques et des tortures passionnelles sur les cœurs innocents. Et c'est bien là tout le génie de l'album, des paroles qui semblent anodines mais qui cachent en vérité des tragédies, sûrement romaines, posées sur des mélancolies ensoleillées qui nous donnent envie d'aller bronzer au bord d'une piscine. Le titre éponyme de l'album, Ti Amo, est un parfait exemple de cette dualité. La mélodie est tellement enjouée qu'on en oublie au premier abord de se concentrer sur les paroles. On entend si bien le refrain, léger et répétitif, que notre attention se perd sur les couplets. Pourtant, par des subtilités aussi efficaces que frappantes, on nous raconte ici l'histoire tragique au goût doux amer d'une déclaration d'amour sincère à une fille qui apparemment préfère prendre les choses à la légère sans trop s'engager. Champagne ou Prosecco, demande Thomas Mars dans cette chanson. Il dira en interview que ce choix se réduit à la question de l'engagement. Le champagne aux grandes occasions et pour longtemps, et le Prosecco beaucoup plus commun pour faire la fête au jour le jour. Thomas Mars qui exprime d'ailleurs que c'est exactement ce que cet album devrait être, du Prosecco. Durant le premier showcase, il a d'ailleurs insisté sur le fait qu'il ne fallait pas sacraliser cet album, ne pas en faire tout un cérémonial, avant de demander aux journalistes présents de ne pas l'écouter trop fort.
Et donc finalement, faire passer les paroles et les thèmes abordés pour des histoires sans importance, c'est un peu l'essence de l'album ?
Oui, comme un amour de vacances adolescent qui se veut simple, sans conséquences et innocent, au soleil, allongé sur une serviette de plage rose bonbon, mais qui finit par des cœurs piqués à vif et des promesses de se retrouver coûte que coûte. Selon Christian Mazzalai, les meilleurs titres de Phoenix se résument presque entièrement à leur charme et à leur émotion. C'est ce que ce groupe cherche à conserver dans ses titres, et comment ne pas être saisi au cœur quand on suit au fur et à mesure de l'album les péripéties de notre chanteur fou amoureux, qui dit même, dans l'avant-dernier titre, être jeté au lion par celle qu'il promet tout de même de suivre n'importe où. Mention spéciale au titre Love Life, qui va jusqu'à demander si par amour on peut aimer le bonheur de celle qu'on aime avec un autre, toujours sur un morceau sans tristesse ni apitoiement.
Dodi, une réaction, peut-être ?
Non, j'allais juste dire complètement.
Les choix et les thèmes, peut-être.
Oui, sur le choix des thèmes, on est dans la lignée de la French Touch. On peut clairement citer le titre Instant Crush des Daft Punk et de Julian Casablancas, le leader des Strokes, qui répond clairement à Love Life. D'ailleurs, ce parallèle avec les Strokes, qu'on fait de plus en plus souvent entre les Strokes et Phoenix, est-ce que vous trouvez ça justifié ?
Oui.
Non,
merci Dodi.
Je connais pas les Strokes personnellement, mais d'ailleurs je connais même pas très très bien leur musique, mais je pense que c'est la même génération à peu chose près. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont écoutées en commun, et je pense qu'il y a nécessairement des références communes et que ça s'entend. Après, on peut pas dire que les groupes sont, c'est pas du tout les mêmes groupes. Ils ont beaucoup de choses, ils ont essentiellement des divergences, je trouve. Mais il y a quand même quelque chose. Ça reste dans la même famille quand même. Je pense qu'on peut considérer que c'est la même famille. À mon avis, ça ressemble par exemple plus aux Strokes qu'à Sepultura, pour prendre un exemple.
Pierrick,
ouais.
Je suis d'accord, et en même temps, je trouve les Strokes et Phoenix deux groupes très différents. Il y a deux chanteurs qui ont des charismes très différents, deux manières de chanter différentes. Les Strokes sont un vrai groupe de rock où, voilà, c'est quand même les productions, c'est toujours très guitare, basse, batterie. Phoenix, c'est une proposition de production qui est plus recherchée, mais en fait, qui est, voilà, c'est plus produit. Et il y a une vraie différence pour moi, c'est deux groupes vraiment totalement différents, mais peut-être qu'ils s'influencent l'un l'autre, même ils ont émergé à peu près au même moment, au début des années 2000, je pense.
Ouais, c'est vrai. Thomas Mars cite souvent les Strokes comme inspiration, en tout cas dans l'interview justement au magazine Spin, il en reparle. Donc je pense qu'il y a des inter-influences entre les groupes.
Oui, c'est sûr.
Mais avant de parler un peu plus en profondeur de la French Touch, je vous propose qu'on écoute le titre Love Life, extrait toujours du dernier album de Phoenix.
Yeah.
Radio Campus Paris, vous écoutez bien Echo et on écoutait le titre Love Life.
Qui est peut-être un des titres qui s'inscrit un peu le plus dans l'esthétique de la French Touch, je trouve. Je sais pas, on va en reparler, Dodi.
Je pas du tout. Faudrait déterminer
tout. Décidément.
Faudrait déterminer ce qu'est la French Touch.
Moi, je trouve que ce morceau-là, il a pas. Pour le coup, il a vraiment un côté indé, je trouve, dans la composition.
Oui, ouais, moi aussi, je le trouve un peu lofi. Et puis, il y a un sample aussi d'un groupe qui s'appelle Chris & Cosé. Un titre qui s'appelle October. Et peut-être en ça, c'est un peu French Touch parce qu'il utilise le sample, mais. D'aspect comme ça, je le trouve assez, assez rock indé plutôt.
Ouais,
d'accord. Ok, bah, du coup, on va peut-être revenir avant de reparler de ce titre sur la French Touch. Je suis désolé d'y revenir. C'est un courant qui est apparu dans les années 90, qui prend ses racines dans la musique house pour situer un peu l'affaire. C'est l'équivalent à l'international de la house française à l'époque, une house qui utilise des samples de funk, de disco. La French Touch, au départ, on l'entend avant tout dans le club parisien, le Palace, avec des DJ comme David Guetta et Laurent Garnier, qui sont un peu les héritiers, surtout pour Garnier, eh bien, de la culture techno qui, sous Margaret Thatcher, va être prohibée et donc exportée outre-Manche à Paris. Et aux alentours de 95, c'est l'explosion avec des DJ comme Saint-Germain, Étienne de Crécy, et à la fin de l'année 96, Daft Punk, qui publie Homework, avec le mondialement connu Around the World, qui fixe définitivement les contours du style. Voilà pour l'avant-garde, mais aujourd'hui encore, on le sait, la French Touch sait se renouveler, notamment grâce au label Headbanger, une véritable usine à talent, Paul.
Oui, je pense que je ne surprendrai pas les invités qui ont déjà travaillé avec quasiment tous les artistes de ce label, mais avec des jeunes comme Borussia ou Boston Bun, ou même des vieux de la vieille comme Cassius, Breakbot ou Justice, Headbanger est toujours à la pointe de la French Touch.
Bah du coup, ça nous fait nous demander quelle est la place justement de Phoenix dans ce mouvement de la French Touch, qui est un mouvement un peu particulier. Qu'est-ce que vous en pensez, Dodi, Pierrick, Stéphane,
Pierrick. Moi, la French Touch, c'est quoi la French Touch?
Ben voilà.
C'est vrai, parce que la French Touch, oui, pour moi, c'était un sample de disco avec un beat de 909 et une voix qui tourne, des filtres et des vocodeurs. Donc, il y a des éléments qu'on retrouve dans Phoenix, mais Phoenix, pour moi, c'est...
C'est pas la French Touch pour vous?
Ben... Je sais pas, je pense que ça a été un terme, la French Touch, pour déterminer un mouvement où on se disait, voilà, il y a de la musique en France qui peut être exportée et qui peut devenir internationale. Mais quand on écoute Moon Safari de R et Stéphane à ma droite pourrait vous en dire, c'est très différent de Homework de Daft Punk. Et alors on met tout ça sous la même étiquette de la French Touch. Donc il faudrait voir ce que c'est que la French Touch.
Oui, c'est un peu au-delà d'un style, c'est comme le dit Pierrick, c'est plus le regroupement d'artistes qui ont réussi à intéresser au-delà de nos frontières et à se faire connaître et à susciter de l'intérêt. Alors que c'est pas forcément ce qui était le plus défendu chez les artistes français pendant longtemps. Le parallèle qu'on peut faire entre la French Touch et une ancienne garde, c'est l'avènement de la musique disco de par Céron, Voyage ou ces musiciens de la fin des années 70. En fait, finalement, c'est un petit peu les professeurs de la French Touch qui ont été repris ensuite dans les codes de la house filtrée dans les années 90. Après, l'étiquette French Touch, c'est vraiment l'idée de mettre sous la même toile plusieurs types de musique qui s'exportent.
D'accord. Donc voilà, on touche bientôt à la fin de notre émission. Phoenix, qui se produira à l'Accor Arena de Bercy le 29 septembre prochain. On peut terminer peut-être en parlant de la suite des opérations. Dans une interview accordée aux Inrock, le groupe dit vouloir continuer à expérimenter, notamment avec des couleurs plus africaines. Sur Tiamo, d'ailleurs, on entend déjà un sample de percussion de Tiken Jaffa Coli. Phoenix, qui vibre à la façon d'Abidjan, ça donnerait quoi, Pierrick, Stéphane?
Ça donnerait, je sais pas moi, qu'est-ce que ça peut donner. Il y a un sample de Fela Kuti dans le titre Fleur de Lys, donc il y a peut-être une voix dans cette. Si on écoute bien Fleur de Lys, ça peut peut-être donner le Phoenix du futur, peut-être.
On arrive déjà à la fin de notre émission, merci de l'avoir suivi. Un grand merci aussi à nos trois invités, ces trois architectes de l'industrie musicale de demain que sont Stéphane Bria, Pierrick Desvins et Dodi El-Cherbini. Merci à messieurs de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans ce voyage sonore.
Merci. Un grand merci aussi à Hugo Violas qui était à la réalisation ce soir, Christophe Dacuna pour son soutien et ses conseils, et à Elsa Landard à la rédaction en chef.
On se retrouve dans un mois. D'ici là, vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur radiocampus.org.
Il est maintenant presque 21h sur Radio Campus Paris.
Bonnes vacances à ceux qui en ont. Pour ceux qui, comme nous, restent à Paris, eh bien, vous souhaite une très belle soirée.
Restez attentifs au Miomur Herzien du 93.9. Tout de suite, on va vous chercher des noises qui arrivent dans vos oreilles. Merci à tous. À dans un mois.